Bienvenue dans la file d'attente.
Salut Guillaume, salut tout le monde.
Salut Louis. Alors, de par leur aspect réel et tangible, les parcs d'attractions suscitent des émotions et un attachement particulièrement fort. Peut-être plus fort encore que les autres médias traditionnels de storytelling comme les films, les séries ou la littérature. On se passionne peut-être davantage pour les univers et personnages de parcs à thème, parce qu'ils sont concrètement devant nous, parfois même tout autour de nous.
Et oui, écoute, je te laisse responsable de ces propos-là, mais en tout cas, les parcs à thème sont effectivement en constante évolution, et il n'est pas rare qu'une attraction soit démontée parce qu'elle est devenue obsolète, ou parfois aussi par manque de place afin d'en construire une nouvelle, ce qui crée souvent l'émoi des fans qui passent à peu près par toutes les étapes du deuil lorsque leur attraction ou décor préféré tire sa révérence.
Et plus globalement, le contenu des parcs à thème... Ne peut-il être considéré comme de véritables œuvres d'art? Pour en parler, on accueille un ami de la maison qui connaît bien la question puisqu'il est designer de parcs d'attractions. Je fais des phrases qui terminent en « on ». Osiris, Discobelix, Tikiwaka, Karma World, Konda et bientôt Toutatis. C'est lui, c'est Julien Berthova. Salut.
Bravo.
Julien.
Bravo Julien.
Ça va messieurs?
Ça va et toi?
La forme?
Ça va,
ouais, bah bien. Nickel. Trop bien.
Très content de te retrouver parmi nous. Ça fait un petit moment. Ça fait, je crois, depuis février. Janvier, février.
T'en es là à compter les mois, toi. Non, ben, en tout cas, merci pour cette invite et comme d'hab, super content d'être là.
T'as dessiné beaucoup plus d'attractions que je ne pensais. Cette liste a été très très étoffée aujourd'hui. C'est cool.
Ça va, il a dit que celle qui était cool, celle qui était pas ratée.
Quelque chose à rien d'autre à déclarer, Julien, un fait d'armes que t'as envie de passer sous silence, je sais pas. Bon.
Non, pas du tout. Non, je suis très content d'être là, de participer à ce nouvel épisode et puis de débattre ce soir. Il y aura du débat.
Oh, ouais.
Oui.
Plein de choses à se dire.
Il y aura du clash.
Ça va être cosmique. Ça va être formidable.
Ouais, c'est clair. Mais oui, on avait envie de parler de cette question qui tourne pas mal en fait dans les communautés de fans de parcs d'attractions. C'est le principe de est-ce que les parcs doivent-ils être considérés comme des musées? Sont-ils des musées? Est-ce que c'est un crime de toucher au moindre truc, changer de nom, démonter une attraction, repeindre les murs? C'est quelque chose qui crée parfois pas mal de peut-être pas de frustration, mais en tout cas beaucoup de discussions au sein de la communauté. Et on avait envie d'en parler avec quelqu'un qui justement est de l'autre côté, enfin qui est des deux côtés en fait, hein, parce que t'es quand même,
ouais.
On peut le dire.
Oui, oui, j'ai les deux casquettes. Tout à fait.
Les deux casquettes.
Le fan, hein, fan et puis le travailleur quoi, des parcs quoi.
Voilà. Le travailleur du parc. Effectivement.
C'est ça que tu marques dans tes fiches de.
Oh, ouais, ouais. Ouais.
Travailleur.
Moi,
de
je travaille parcs. Pour les parcs. Je fais des dessins et voilà, j'ai des dessins pour les parcs.
C'est techniquement
ça. Mais alors
ça,
déjà, l'appellation bon musée, c'est déjà un peu une hyperbole. Enfin, c'est pas quelque chose que personne n'emploie le terme de musée. Enfin, en disant je veux que tel ou tel parc reste muséifié. C'est déjà, je trouve, dans ta formulation, Guillaume, un petit peu biaisé, un petit peu orienté comme.
J'ai pris cette formulation-là parce que c'était Walt Disney lui-même qui avait coutume de rappeler que Disneyland n'était pas un musée et que lui, a priori, c'était le développement de son parc. Et je pense que c'est plutôt l'attachement des fans au fil du temps qui ont sacralisé tout ce qui se trouvait dans ces parcs d'attractions.
Bah, si Walter l'a dit, je m'incline. très bien.
Ça veut dire que tu valides tout ce qu'il a dit et pensé?
Oui, et surtout, comme on va en parler, comme certains fans, je présume de ce qu'il aurait dit aujourd'hui, en disant « Ah, si Walt était là, il aurait dit oui à ça et non à ça ». Donc ça, c'est un peu le petit jeu, justement, auquel jouent beaucoup de fans quand on parle de ce sujet-là, quoi. C'est-à-dire, enfin, surtout aux États-Unis, j'ai l'impression, mais on va voir si peut-être en France, il y a un petit peu.
Est-ce qu'il aurait mis des décors dans Avengers Assemble Flight Force? C'est la question.
Ouais.
Peut-être l'objet d'un débat... Non, pas longtemps. Bien. Est-ce que, du coup, toi, comment... Est-ce que ça te toucherait si on venait à modifier ou à... Et là, en tant que designer, peut-être, hein, à modifier ou à dégager un truc sur lequel tu as travaillé et dont tu es assez fier. Je prends par exemple un truc une de tes créations que tout le monde connaît bien, c'est Osiris au parc Astérix. Est-ce que s'il devait faire un Osiris version 2, Mission Space, je sais pas quoi, est-ce que, sans ton consentement, comment tu te sentirais ou c'est difficile, ouais, c'est tellement hypothétique peut-être que c'est un scénario un peu spécial.
Non, mais ça, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver. Enfin, je veux dire, moi, avec le temps, j'ai appris à vraiment désacraliser et à me détacher des choses. Et c'est pas facile parce que bah vous savez quand dans tous les métiers de créa on met quand même un petit peu ses tripes sur la table. C'est des métiers passion et donc forcément il y a toujours beaucoup d'affectif dans ce qu'on fait. Mmh. Mais des fois justement il faut apprendre à gérer ça parce qu'on peut très mal le vivre. Si par exemple voilà un projet se passe pas très bien, est mal réalisé ou comme tu dis peut-être dans le temps l'expérience se dégrade avec le temps parce qu'il y a des effets spéciaux qui marchent plus ou des trucs comme ça. Je pense que, voilà, moi en tout cas personnellement, j'ai appris à m'en détacher, c'est-à-dire que pendant la phase conception, oui, ça reste c'est ton bébé, voilà. Mais une fois que tu l'as rendu, que tu le délivres au parc et que tu le délivres au public, moi personnellement, ça m'appartient plus. C'est voilà, le parc se l'approprie, les visiteurs se l'approprient, et ça reste quelque chose, bien sûr, pour qui j'ai selon les projets, j'ai pas mal d'affection ou pas. Ça dépend. Il y a des projets que j'aime moins que d'autres. Tu vois, c'est un peu comme à mon avis les gens avec leurs enfants, quoi. Il y en a un qui en préfère et l'autre un petit peu moins. Bah, c'est un peu ça, quoi. Mais non, j'ai vraiment. Là-dessus, j'essaye de prendre au maximum de recul. Des fois, c'est pas simple, hein. Mais, voilà, il y a toujours.
Ouais, parce que comme tu dis, une fois qu'il est livré, toi, tu le livres dans le meilleur état possible puisqu'il est neuf. Mais ensuite, derrière, tu dois avoir une maintenance. Tu dois avoir certainement des budgets débloqués de temps en temps pour faire un petit coup de peinture, etc. Donc, c'est vrai que il dépend aussi de plein de choses, quoi, ce projet-là pour survivre un peu dans le temps, dans son état le plus optimal.
Non, mais c'est une question de survie, hein, mentale. Hein. Il faut vraiment savoir se détacher et faire tranquillement, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce que sinon on devient fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est.
Ouais.
Donc oui, un jour, je sais pas, peut-être que Osiris sera remplacé par autre chose, mais j'espère pas tout de suite. Hein. À mon avis, c'est pas près d'arriver, mais ça arrive, mmh. Évidemment.
Est-ce que tu penses que ouais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que toi t'as l'air de dire qu'en tant que designer bah, effectivement tu livres la meilleure une attraction comme disait Louis dans les meilleures conditions possibles dans le meilleur état possible et qu'après c'est un peu voilà c'est hors de ton contrôle t'as pas mal de détachement et j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse avec j'ai pas juste envie de dire les fans mais le public en fait puisque on peut être attaché à un truc dans un parc sans forcément être fan sur des forums ou sur Twitter ou des trucs comme ça et il y aurait peut-être plus d'attachement depuis le public de la part du public que de la part des designers peut-être
moi je sais pas comment les autres fonctionnent, moi je fonctionne un petit peu de cette façon. Ouais. C'est aussi différent parce que je suis je suis freelance, enfin je suis indépendant, donc je fais pas partie je suis pas salarié d'un parc en particulier. Peut-être que quand tu es salarié dans un parc et que tu designes les attractions pour un parc en spécifique, t'as peut-être plus de suivi derrière, plus de peut-être de moyens de faire du show control ou des choses comme ça. Moi là-dessus, c'est vrai qu'après je prends assez vite mes distances parce que je suis sur un autre projet, peut-être même d'un parc concurrent juste en face. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à switcher mentalement, si tu veux, assez rapidement. Après, en tant que fan, et on pourra parler de nos expériences respectives, mais oui, il y a des attractions pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et puis aussi beaucoup d'amour, hein, et j'aimerais pas qu'il leur arrive bricole, quoi.
Justement, mettons les pieds dans le plat, c'est quoi votre plus gros crève-cœur, justement, dans une attraction n'importe quoi dans un parc pour lequel vous avez beaucoup d'attachement, et puis un jour, il a été dégagé, ou remplacé, ou maltraité.
J'en veux des noms.
Ouais. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui, on va pas se froisser avec,
Bah, allez-y, les gars.
Avec qui? Ah, bah, tu veux dire que tu
penses déjà à quelqu'un? Je vais poser la question à Louis, oui, effectivement.
Ça me laisse.
Non, alors moi, j'ai une idée, mais. J'ai une idée, c'est pas un... Alors, parce que comme on commence nos auditeurs commencent à le comprendre, je ne connais rien finalement.
Est-ce que t'as déjà visité un parc, Louis?
À peine, tu sais. Je suis passé devant Disneyland Paris, tu sais, sur l'autoroute une fois. J'ai vu le panneau avec Mickey qui est un peu vieux d'ailleurs. Faudrait que vous le repeigniez,
oui,
franchement.
Il faudrait faire les couleurs, hein, sur ces panneaux.
Ouais. Et on a l'impression qu'il date encore de 92. Donc bref, non, un truc.
Mais justement, on va pas le remplacer, sinon ça va faire un esclandre. Ah.
Oui.
Parce que c'est vintage.
On garde les panneaux. Ouais, parce que c'est vintage. Non, en fait, moi, ce que je me disais avant de vraiment, enfin, de plonger un peu dans ce monde de fans de parc à thème, c'est justement, et je le pense toujours dans une certaine mesure, c'est que voilà, les gens parfois en font un peu trop et Et oui, c'est bizarre. Et donc je me disais, oh, pff, ils peuvent remplacer ça et ça. Moi, je m'en fous. Je visite un parc et je m'amuse. Et il y a un truc quand même où je me suis rendu compte de ça. C'était sur le spectacle Disney de fin de journée. Là. Alors c'était quoi? C'était avant, c'était Illumination et maintenant c'est Dreams ou je sais plus quoi.
C'est l'inverse, je crois. C'était l'inverse. Disney Dreams et maintenant c'est Illumination. Voilà. Ouais.
Donc celui où il y avait des feux d'artifice qui partaient, t'avais des fusées qui étaient project mappées sur le château et ça partait ouais. En feux d'artifice derrière. C'était franchement c'était un super show, ça finissait trop bien la journée et j'avais toujours trouvé ce show très bien, mais comme il était établi, c'était un peu une sorte de c'était donné quoi. Et ensuite ils l'ont changé pour effectivement un truc qui fait passer que des licences à fond. Alors il y en avait certainement déjà un petit peu avant, mais t'as du Star Wars à fond sur le château et tout, donc tu sens que je sais pas ça colle moins bien. Il y a peut-être moins d'effets et tout. Et bref. Je me suis dit, ok, je comprends en fait là les fans qui se sont plaints de ce changement-là, parce que je suis d'accord tout simplement, quoi, que c'était pour moi c'était un show qui est moins bon tout simplement, avec moins de projection mapping aussi, qui est un effet que j'aime beaucoup, qui marche bien sur les bâtiments en général. Donc voilà, j'ai pas d'attraction là en tête, mais ce show-là en tout cas, ouais, ça m'avait vraiment marqué quand je l'ai vu pour la première fois.
Je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion de revoir ce show Illumination pour il y a assez récemment. Je crois que je l'avais vu une seule fois avant, il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Et il y a une scène avec la Belle et la Bête et ils ont eu l'idée d'utiliser le live action de la Belle et la Bête avec une chanson originale du live action que personne connaît. Et à ce moment-là, donc, c'était l'impression que le public est complètement déphasé en mode qu'est-ce que c'est,
qu'est-ce que c'est
ouais c'est la Belle et la Bête mais y a pas les chansons, enfin c'est très bizarre.
C'est Hermione en robe de Hermione en robe de la Belle. Donc voilà, moi donc je vous ai mis un
et
petit
Rock
peu
et Roller Coaster peut-être Louis bien sûr.
Ah bah Rock and Roller Coaster, mais j'ai pas eu encore l'occasion de faire cette horreur apparemment qui est Flight Force. De toute façon, ils auraient pu le remplacer par quoi que ce soit d'autre, j'aurais été mécontent de toute façon. Donc effectivement, dès que je le fais, je ferai mon petit bitching sur Flight Force comme tout le monde, mais avec ce petit saupoudrage par-dessus de Bring Back Rock and Roller Coaster.
Évidemment.
Voilà. Alors, Guillaume ou Julien, lancez-vous là, dans le sérieux, là.
Guillaume, t'y vas ou j'y vais?
Est-ce que tu es prêt?
Pas le droit de dire de retour de la Terre à la Lune, hein, parce que ça, c'est convenu, hein.
Bon, ben, je repars,
Non, mais on peut partager, c'est un très bon exemple. Je sais qu'on va peut-être un peu radoter parce qu'à chaque fois, je crois qu'on le sort ce truc-là dans les podcasts. Ouais. Mais ça, c'est typiquement le bon exemple où, qui a été, à mon sens, extrêmement, dommageable pour l'attraction. Donc on parle bien de Space Mountain de la Terre à la Lune, hein, qui était la version toute originale de Space Mountain à Disneyland Paris, qui était, voilà, il faut le dire, une révolution pour l'époque et à mon sens vraiment un chef-d'œuvre, voilà, de storytelling, de thématisation, d'atmosphère, enfin tout ce que vous voulez. Et toutes les versions qui ont suivi, j'ai jamais retrouvé cette magie, quoi. Et c'était plutôt, j'ai l'impression que ça a même empiré de version en version. Donc là-dessus, ouais, c'est pour moi c'est le plus gros exemple comme ça qui me vient. Après, il y a plein de petites choses des fois dans les parcs où tu te dis, oh c'était marrant, ça j'aimais bien, mais ça passe cette ampleur-là, je trouve. Enfin, c'est Discoveryland même, d'une façon un peu générale, j'aurais tendance à dire, avait vraiment perdu de sa cohérence et ce qui faisait la force de ce land et qui, je sais pas si c'est rattrapable, si un jour on reviendra, pas forcément de remettre tout comme c'était à l'époque, parce que bon, je pense que les astéroïdes en carton-pâte et tout ça, mine de rien, de remettre ça maintenant, ce serait pas la bonne solution, mais je pense qu'on pourrait retrouver une atmosphère, on pourrait peut-être retrouver quelque chose en réutilisant les technologies d'aujourd'hui, qui nous mettait dans cette ambiance si particulière que je ne retrouve plus maintenant. Mais c'est voilà, ça c'est un exemple assez facile, on va dire. Je sais pas si t'en as d'autres, toi Guillaume.
Ben moi j'allais citer le même. Effectivement c'est un peu le porte-étendard du sujet de ce soir, hein, Space Mountain. C'est vrai qu'aux États-Unis notamment, c'est un débat qu'on entend beaucoup dans les communautés de fans dans les parcs Disney aux États-Unis, où dès qu'on touche un truc, il y a quelques exemples, hein, à Epcot ça a beaucoup changé au fil du temps. Il y a notamment l'attraction Imagination avec Figment qui a été refaite. Il y a eu 3 versions au final. Apparemment la version actuelle convient toujours pas aux quadras qui l'ont connu quand ils étaient petits. Est-ce qu'on sent le petit sel quand je dis ça? Non, mais je sais pas, à un moment, il y a un truc où tu dis, bon, est-ce qu'on peut faire son deuil de ces trucs-là, parfois? Et je trouve que, tu vois, autant je suis d'accord
Figment,
que...
Figment, il y avait Il y avait une petite anecdote, je coupe une seconde parce que je sais pas si t'avais vu ça il y a quelques mois où en fait la voix était faite, la voix où, alors je sais pas si c'est la voix de Figment mais la, ou la voix d'un personnage qui était faite par par l'acteur anglais Eric Idle qui est un membre des Monty Python et donc quelqu'un lui demande et en fait ou je sais plus ce qui s'est passé avec la voix a été changée ou ils ont changé de personnage ou je sais pas quoi et quelqu'un le tag sur Twitter en disant oh regarde ce qu'ils ont fait à ton personnage et tout et lui il dit mais pff, je ne m'en souviens plus de ce truc je sais même pas de quoi tu me parles c'était il y a 35 ans je me souviens plus avoir enregistré cette voix mais très bien. Et du coup, les fans ont pété un plomb en disant, ouais, même lui, il sait plus ce qu'il, tu vois, c'est là où tu te rends compte que les fans étaient encore plus attachés, mais ça, on vient un peu ce que sur quoi t'as dit, je viens tout à l'heure, encore plus attachés à l'œuvre que leur créateur, alors c'est pas le créateur, mais au moins un des acteurs qui a participé, et les gens trouvaient ça incroyable qu'ils se souviennent plus, parce que eux, c'est une voix qu'ils entendent, parce que les ultra fans, ils vont voir ça toutes les semaines, donc c'est quelque chose qui fait partie de leur vie quotidienne, quoi.
Donc, faut pas oublier l'enregistrement d'une voix off pour un personnage de parc d'attraction dans la carrière de ce pauvre acteur, ça représente peut-être deux jours. Donc forcément, il s'en souvient plus. Et je pense qu'à un moment sur Twitter, il avait même répondu à quelqu'un en disant que c'était que Figment était un. Je me souviens plus de ce Little Fucker ou je sais pas quoi en mode. Bon,
oui,
je
voilà.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Ouais. Cette petite merde. Bon, ouais. Les gens l'ont mal pris quoi. Mais du coup, j'ai trouvé
en fait,
cette échange très
que,
très drôle.
Est-ce que, enfin, tu vois le. Les émotions, elles sont toujours authentiques. Donc en fait, l'attachement des gens à un truc, moi je le comprends toujours. Mais il y a une différence avec les parcs d'attraction, c'est que un film, tu pourras le regarder toute ta vie chez toi 20 fois. Moi j'ai ça avec Jurassic Park par exemple. Voilà, je mets quelques séances par an, tu vois. Un livre, tu peux le relire encore. Une série, même chose. Tu vois, il y a et les parcs d'attraction, une fois que c'est fini quoi, tu vois. Donc et encore, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens de regarder des vidéos de trucs qui datent d'Epcot Horizon, c'est je sais pas quoi, en qualité où tu dis, mais il y avait même pas de caméra HD à l'époque, c'est fou d'avoir réussi à traiter les bandes, enfin, pour que ce soit dans cette qualité, donc.
C'est.
Je sais pas.
Bah, si on va un peu dans le côté un peu psychologique de tout ça, c'est vrai que, comme tu as parlé du cinéma, c'est les mêmes mécanismes, en fait. On parle souvent, par exemple, d'un film confort. Voilà. Tu sais, par exemple, t'en as ras-le-bol de galérer pendant 2 heures sur Netflix pour savoir ce que tu vas regarder. Et bah, tu vas retourner à ton film confort. Tu vas te refaire Retour vers le futur 1, ou j'en sais rien, moi, E.T. ou un truc, ou Jurassic Park. Parce que t'es dans ton environnement, t'es dans ton cocon. Tu sais que tu aimes, tu sais que ça va te faire plaisir, tu sais que t'as tes scènes cultes. Et je pense que c'est un mécanisme que les gens ont également dans les parcs d'attractions. Quand tu vas dans un parc, t'es dans ce cocon également. T'es dans un endroit safe, sécurisé, dans lequel tu te sens bien, dans lequel t'as tes habitudes, et de temps en temps, parce que le parc, lui, à côté, il doit évoluer, il doit aussi ramener, tu vois, de nouveaux visiteurs, c'est un business différent, finalement, qu'un film, et bah, il va se mettre à changer des trucs, et là, c'est le drame, parce que bah, d'un seul coup, voilà, je sais pas moi, le petit animatronique qui faisait un truc rigolo à un moment donné, bah, il n'existe plus, soit parce qu'il il était cassé, ou il y a autre chose qui a pris sa place, et là, on sait pas pourquoi toi c'était ton kiff et d'un seul coup ça n'existe plus et là c'est voilà mais c'est normal enfin on a tous cette façon de réagir sur les choses qu'on aime un parc de toute façon c'est un lieu de souvenir tu vas là avec tes amis avec ta famille avec ta chérie ton chéri et il y a des émotions qui se créent donc à un moment donné voilà la grosse vague tu t'es pris dans la gueule dans le grand splash alors que tu t'y attendais pas t'auras envie de la retrouver cette vague tu serais déçu si elle était plus petite si elle éclaboussait moins ou parce que t'avais vécu une émotion qui est restée ancrée c'est quelque chose à chaque fois que tu reviens au parc tu t'en souviens t'as envie de retrouver ces émotions que t'as aimées et du coup et bah c'est pour ça que des fois ça coince un tout petit peu avec les fans ou même les visiteurs en général parce que même les visiteurs sans être fans aiment bien retrouver les choses qui les ont fait marrer la fois précédente. Donc en fait les parcs ils sont toujours sur cette espèce de à marcher un petit peu tu vois c'est un jeu d'équilibriste entre faire avancer le parc, le faire aller vers l'avant parce que bah c'est normal hein, c'est un métier où tu dois toujours innover, tu dois faire de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles, de nouvelles animations, faire de nouveaux décors, entretenir tout ça et en même temps savoir préserver l'âme parce que toutes ces petites choses ça fait partie aussi de l'âme, c'est toutes ces petites choses cumulées qui donnent de la personnalité soit au parc ou aux attractions. Et ben Voilà, il y a à un moment donné, à la conception, tu vas te poser la question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vire vraiment? Est-ce que les gens ont de l'intérêt pour cet élément-là et vont regretter de le voir disparaître, ou vraiment on y va à fond et puis voilà.
Donc c'est vrai, ouais, que non, c'est... Ce sont des émissions que, comme tu dis, que t'as envie de retrouver, et puis surtout peut-être que t'as envie de partager avec soit des potes qui sont pas venus et que t'emmènes pour la première fois, soit que t'as envie de transmettre quand t'es parent et que t'emmènes tes enfants aussi pour la première fois et que t'as envie de leur montrer le ride que toi tu préfères, etc. Donc c'est vrai que bon, je comprends, hein, s'il y a des changements trop fréquents, trop brutaux, ça peut être chiant, mais moi je suis pour la nouveauté quand même.
Alors il y a aussi un truc, c'est on sait toujours ce qu'on perd quand c'est annoncé. Et on ne sait pas si ce qui va remplacer le truc qu'on perd sera à la hauteur. Parce qu'évidemment, comme tu le disais, Julien, ouais, quand les gens ont de l'affect pour un truc, il y a le côté confort, comfort movie, comme tu disais, machin. Mais je pense tu parlais des feux d'artifice, Louis, tout à l'heure. Il y en a un qui est, je trouve, peut-être un des meilleurs feux d'artifice de parc. C'est Happily Ever After au Magic Kingdom en Floride. Il a été remplacé aussi par un truc qui est en fait quasi le même mais en moins bien, et tu dis bah, hein, tu vois, il y a ce côté aussi, en fait, est-ce que le truc qui va succéder sera aussi comfort, aussi apprécié que le truc précédent. Et je pense qu'il y a aussi toujours un aspect de comparaison, en fait. Donc, quand on remplace un truc ou quand on le modifie, il y a clairement un truc de bah, est-ce que j'en ai plus pour mon argent, enfin tu vois, est-ce que j'ai la même connexion, sauf que la même connexion, comme il y a de la nostalgie en jeu, elle s'est pas construite en un jour quand tu perds un truc que t'as aimé pendant 20 ans, 15 ans, un truc comme ça. Donc c'est ouais, je pense que les attractions qui viennent remplacer,
elle se fait avec les personnes plus jeunes, peut-être aussi, qui connaissent pas celle d'avant et qui, elles, vont considérer, tu sais, c'est un peu le mythe de l'âge d'or, de dire c'était mieux avant. Alors là, tu dis qu'effectivement peut-être le show était moins bon, mais si on met la nostalgie de côté, ouais, le fait de dire c'était mieux avant, ça a toujours existé et ça existera toujours. Et voilà, chaque génération dira ça quand on sera vieux. Je suis sûr qu'on dira c'était mieux avant.
Il y a quand même des attractions où j'ai l'impression que ce qui a succédé fait quand même peut-être pas l'unanimité, parce que je pense à la Tour de la Terreur à California Adventure, qui est devenu un truc sur les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout. Alors ça a été très très controversé parce que c'était un truc, la Tour de la Terreur, bah tu touches pas à ce thème là machin, et puis finalement ça a l'air de vachement satisfaire les gens qui la font. Je sais pas s'il y en a un de vous qui l'a déjà fait, cette Tour de la Terreur à California Adventure.
Non, j'ai toujours fait les versions Twilight Zone.
Tu sais, c'est comme les nouvelles versions de Facebook, d'Instagram, tous les trucs qu'on a vécu. À chaque fois, tout le monde gueule. Ah, oh, ça pue cette version. Puis après, au bout de deux semaines, on s'habitue. On a complètement oublié la version d'avant.
Je me demande par rapport à ça si c'est pas du fait que finalement la Tour de la Terreur existe aussi encore en deux autres versions un peu originales. Enfin, par exemple, ouais, celle de Floride et puis celle qu'on a à Paris. Ce qui, pour le fan, par exemple, il sait qu'il pourra, enfin, celle de Flory, de toute façon, c'est la pièce maîtresse, enfin, c'est la principale, c'est la toute première et à mon sens, c'est la meilleure. Et du coup, elle a toujours été, mine de rien, même quand elle avait été construite, la nouvelle version, en Californie, elle avait été un peu, pareil, un peu polémique au début. C'est la version un peu light, un peu cheap, on avait, un truc, les ascenseurs ils bouclaient pas, tu vois, c'était un circuit en L, enfin
ils s'est placé à l'horizontale,
c'était pas cohérent par rapport, donc il y avait déjà, je pense pas qu'il y avait le même amour, mine de rien, sur cette version là par rapport à la version originale. Peut-être que c'est pour ça que c'est un peu mieux passé, que la transformation en gardien soit passée, ça fait un peu polémique certes, mais je pense qu'à mon avis, si on faisait ça sur la floridienne, alors là,
ouais, c'est vrai. Parce que il doit finalement, en fait, les parcs où ça gueule le plus dès qu'ils modifient un truc, on est surtout chez Disney. Il me semble qu'Efteling là, dès qu'on touche à un truc, ça gueule aussi. On s'en rend peut-être un peu moins compte parce que la communauté, c'est plus aux Pays-Bas et avec la barrière de la langue, on s'en rend peut-être moins compte. Mais je sais qu'il y a pas mal de, enfin tu vois, on touche le moindre truc devient culte à Efteling. J'ai l'impression aussi que Disney, en fait, c'est peut-être le seul groupe qui s'auto-raconte vachement. Tu vois, ils font vraiment vivre leur propre héritage au travers d'émissions, de bouquins sur Imagineering, sur tu vois. Alors quand déjà les attractions sont basées sur des licences, même si on parle de Blanche-Neige et trucs comme ça, il y a déjà un affect puisque tu vis le film que t'as aimé. Nanana. Mais en plus, j'ai l'impression que Disney, c'est vraiment les champions pour peut-être vraiment monter de la mayonnaise pour faire croire davantage que leurs trucs sont plus importants qu'ils ne le sont réellement, je sais pas.
Ouais. Mais sur Efteling, ouais. Pour revenir à Efteling, là, t'avais un exemple précis, c'est par rapport au remplacement, là, de, alors je serais incapable de dire le nom de l'espèce de maison hantée spectacle.
C'est Spookslot.
Voilà, Spookslot.
Ouais. Okay. Ouais, bah voilà, ça, donc ça a été annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient.
Mais donc des gens quand même regrettent
garder le thème, mais ouais, mais enfin il y a. Comment expliquer ça autrement que c'est la nostalgie, parce que je veux dire, le show, c'est tellement lo-fi, je sais pas comment dire, c'est tellement vieux, en fait.
Enfin, je veux dire, moi, quelles sont les attractions qui, selon vous, devraient être virées, alors? Parce que, on peut balancer des gros noms. Je sais que, à Epcot, comment elle s'appelle celle-ci qui tourne là, tu sais, avec l'évolution de... Non, ça, l'évolution.
T'as failli mourir, je sais pas.
L'évolution,
oui. Le truc qui tourne à Epcot.
L'évolution de l'homme, là, de
non, mais, dans la boule.
The Man with the Land, oui.
Non, mais, ah, attends, non, Spaceship Earth.
Oui, Spaceship Earth. Tu vois, ouais. Moi, je l'ai jamais faite, mais je vois des vidéos, je me dis, avec les vieux animatronics, là, t'as l'impression qu'ils vont tomber en ruine à n'importe quel moment. Faut le virer, ça.
Julien, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, Spaceship Earth, c'est vraiment une vieillerie, mais qui, au fil du temps, était quand même bien entretenue et tout, et ouais. C'est mon attraction préférée d'Epcot, je pense.
Ah, carrément, d'accord.
Il était prévu une réhabilitation, c'est très bien qu'il la réhabilite, ça va lui donner un petit coup de neuf, tu vois. Enfin, moi, je vois les choses comme ça.
Parce que tu vois ça comme une vieillerie, c'est-à-dire que justement, tu y vas comme dans un musée, en fait, quelque part, là, tu te dis, voilà une attraction qui a, je sais pas, 40 ans, 50 ans. Ouais. Et tu vois, c'est pas un truc que tu fais en disant, parce que Epcot, c'est quand même censé être un peu le monde de demain. Bon, là, tu vois, c'est plus trop le cas, quoi. Ouais. Il y a des attractions que vous avez envie de raser.
qu'on a envie de garder.
De raser. Ouais, en disant ça, c'est plus d'actualité.
Il y a plein d'attractions que je trouve à chier et que j'ai envie de raser, ouais.
Non, mais pour.
Tu veux Ratatouille? Bah, je te le donne, Ratatouille. Voilà, tu peux le raser.
Ah, pas assez vieux.
Bah, je sais pas si on va du côté de chez le Gaulois. Il y a Goodurix quand même. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin. Voilà.
Ouais.
il est toujours présent. Alors je sais pas ce qu'il
il a quel âge Goodurix ça fait.
Il est là depuis le début du parc hein, donc
ouais. Ah ouais, 89 c'est... ouais putain. Bah 31 ans par là quoi. Ouais.
Des attractions qu'on aurait envie de dégager, mais ouais, mais j'en ai plein, c'est celles qu'on aime pas, quoi. Quoi tu veux dire?
C'est peut-être la mauvaise question de se dire que, oui, on pourrait se dire quelles sont les vieilles attractions que vous n'aimeriez pas qui soient dégagées, parce que c'est ça un peu le truc de dire, voilà, si on touche à It's a Small World, parce que ça, c'est un peu l'attraction la plus iconique qui, pareil, était là depuis le début à Disney. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup d'exemples Disney, mais It's a Small World, tu bouges une poupée d'un micro-poil.
C'est ça qui s'est passé quand ils ont rajouté des personnages Disney il y a une dizaine d'années dedans, alors qu'ils étaient. Non, mais moi je trouve ça assez cool. Enfin, justement, le truc où ils avaient intégré des personnages Disney, mais en les designant comme si c'était. Enfin, ils s'intègrent vraiment
les poupées, ouais.
Dans. Tu me diras ce que tu t'en penses, Julien. Moi, je trouve que c'est une bonne intégration. Et j'imagine les gamins quand ils sont dans ce bateau, ils ont une sorte de petit jeu, tu sais, un peu à la Où est Charlie. C'est ah, j'ai vu Ariel. Ah, j'ai vu Simba. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, je trouve ça cool, quoi.
Mais si je fais une généralité un peu sur toutes ces espèces d'updates qui sont faits sur les rails emblématiques Disney, que ce soit les pirates, It's a Small World ou même Phantom Manor, je trouve que dans l'ensemble c'est pas si mal que ça quoi. Enfin moi ça me chagrine pas. J'ai pas l'impression qu'on m'enlève quelque chose, que je perde quelque chose. Oui, évidemment quand c'est annoncé, il y a toujours un peu de crainte, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était l'esprit de l'attraction est là encore, est encore présent. En tout cas ça m'a pas gêné. Je trouve que c'est bien fait, en effet, tous ces petits ajouts dans It's a Small World, c'est très discret, c'est vraiment c'est bien fichu. Après, sur les autres, je sais que des fois, bon, sur Fantôme ou sur Pirate, c'est peut-être, ça a été un peu plus polémique, mais moi, les changements m'ont pas fondamentalement gêné, quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt, enfin, en tout cas, c'était plutôt bien fait.
Comme on était aussi sur l'exemple de It's a Small World pour cette histoire de personnages intégrés dedans, je suis assez d'accord avec toi Julien. Et il y avait aussi toute la question de sur une attraction comme It's a Small World, on parle d'une attraction qui fait peut-être partie de l'histoire du patrimoine de Disney, peut-être d'un certain patrimoine américain aussi. C'était un truc qui avait été créé par Disney pour la World Fair de New York, Chicago, je crois. Ramené à Disneyland après. Ça a été aussi, il y a la question de l'artiste aussi dans cette attraction. Je trouve Mary Blair, qui était une illustratrice très influente et connue chez Disney dans les années 50-60. On oublie aussi un petit peu sur It's a Small World que tout ce qui était géométrique, ça avait été amené par un autre imagineur qui s'appelle Rolly Crump, qui fait des trucs super 60, très très chouettes. Et tout aussi une armée de Imagineers qui ont dû travailler, et je trouve que souvent sur les attractions, on a... Tu me diras ce que t'en penses, Julien, mais c'est peut-être différent chez Disney que dans ce que tu fais toi en tant que freelance. Mais on oublie un peu qu'il y a peut-être pas un seul designer, mais quand même une armée de gens qui travaillent sur ces projets.
Bien sûr.
Sur It's a Small World, je trouve qu'il y avait aussi ça. En fait, c'est on est en train de détériorer la vision d'un artiste ou de deux artistes, et que ça rendait le débat encore plus complexe que juste c'était mon attraction de mon enfance et voilà quoi. Et il y a un côté en fait dans le débat que je voulais apporter, dont je voulais qu'on parle, c'était la conservation, tu sais, l'archivage de certains trucs. On peut considérer que certaines attractions, ou les attractions, les parcs, enfin, c'est des créations. Et comment est-ce qu'on en garde une trace une fois qu'elles disparaissent? En fait, c'est un peu comme les pièces de théâtre. C'est pas parce qu'elles sont plus jouées qu'elles n'existent plus. Mais il y a quand même, en ce qui concerne les pièces de théâtre, une sorte d'archivage. On considère que c'est un art qui est suffisamment important pour se dire, on va peut-être faire des livres, on va peut-être, archiver les trucs.
Les pièces de théâtre, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'elles peuvent être rejouées à n'importe. Tu as une troupe qui peut se dire, je reprends la pièce et je la remonte. Par contre, c'est vrai qu'une attraction, une fois qu'elle est démontée, à moins que quelqu'un la remonte, c'est mort, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une super bonne question, et peut-être qu'avec les technos, t'en avais un tout petit peu parlé tout à l'heure avec les prises de vue maintenant, alors tout le monde fait des ce qu'ils appellent les POV, là, des point of view, donc les gens qui filment en très bonne qualité, voire en 360, peut-être même avec la VR, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que ça c'est pour le coup, c'est important d'archiver les attractions. Et moi qui suis fan de regarder tous ces documentaires sur les attractions et les parcs fermés, c'est un bonheur de trouver des archives de qualité d'attractions qui n'existent plus. Tu as l'impression de remonter dans le temps.
Mais on a quelques petits exemples comme ça, des fois, de clin d'œil, d'une attraction disparue, un petit détail qui a été replacé, par exemple, quand le Visionarium est parti à Disneyland Paris, Buzz a pris la place, et il me semble bien que tout au début, dans l'arrière-plan des décors, il y a encore le petit robot Nine-Eye qui est un peu dans l'obscurité, mais qui, c'est un petit clin d'œil, ça fait plaisir aux fans, ça aide à faire peut-être passer un petit peu mieux la pilule pour ceux qui ont vraiment une grosse aversion de l'univers Toy Story. Mais après, t'as certains parcs aussi dans lesquels t'as des espèces de petits musées, ça j'aime bien, c'est assez sympa, Park, il me semble, à Holiday Park aussi, il y avait un petit musée des attractions disparues, des fois des anciens chariots, ou alors des maquettes, des attractions, ça c'est plutôt, enfin moi j'aime bien ce genre de truc.
Ça existe encore à Europa Park? Je sais qu'il y a des maquettes à gauche à droite, à Roland Tica, comme ça, mais...
Enfin moi j'avais le souvenir qu'avant c'était là où t'as maintenant la gare l'espèce de monorail suspendu là de Léonard de Vinci.
C'est ça.
Avant c'était là, je me souviens, il y avait un petit musée. Alors je sais pas s'il a été replacé ailleurs en fait. Je
sais qu'ils ont placé des maquettes à gauche et à droite, mais il y a plus un endroit comme ça. Mais tu vois, une boîte comme Disney de nouveau est très très bonne pour éditer sa propre littérature et son propre contenu sur son propre héritage. Ouais. Et comme disait Louis, en fait actuellement hors Disney, si tu veux t'intéresser à la culture des parcs, t'es un peu laissé avec ce que les fans ont créé. Et ça, je trouve que ça, peut-être que c'est tellement un truc de niche que ça représente un investissement qui est pas assez rentable pour les parcs d'éditer, je sais pas, du contenu, que ce soit média, audiovisuel ou des bouquins sur, on peut imaginer, tu vois, que le parc Astérix édite un bouquin sur sa propre histoire, ou bien historien ait envie d'éditer un truc sur les parcs d'attraction en France avec les années 90, 80, il y avait plein de choses à dire, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que de nouveau avec les parcs d'attraction, et je crois que j'ai déjà dit dans ce podcast, c'est un peu, un loisir ou un art qui est un peu
ça,
mis
ça
à la
commence...
marge comme ça.
Ça commence un
C'est
petit
moins
peu, moi je
bien
pense
que le
à...
cinéma, c'est moins chic, c'est moins, tu vois, c'est les parcs, c'est pour les prolos, quoi, tu vois. Je
Ah,
trouve qu'il y a
c'est
toujours
le
un côté
sujet
comme
d'un
ça.
autre podcast, ça, Guillaume, je crois que c'est sur notre
Est-ce que
liste.
les parcs sont
Est-ce
pour
qu'on
les
est
prolos?
des
On
gros
attend
prolos?
vos
Mais
des plouks.
ceci dit, le Europa Park a fait une série, tu sais, comment ça s'appelle sur leur portail dédié là, leur Netflix à eux là.
VidJoy.
Vidjoy, voilà. Bah ça,
Ouais.
c'était cool. Alors,
Tu t'es abonné à VidJoy?
non, mais c'était gratuit parce que c'était ça
Je
ma
sais.
crainte. Mais donc je me suis abonné. Enfin voilà. Mais j'ai pas tout regardé. Je me suis même regardé puis je suis passé à autre chose. Mais le contenu était hyper bien fait et justement, ils ressortaient les archives, ils ressortaient la façon dont ils ont construit les trucs. Et alors après, évidemment, quand c'est le parc lui-même qui, comme tu dis, comme avec Disney, qui édite sa propre histoire avec le documentaire d'Imagineers et tout. Bon, c'est ils s'auto-racontent et effectivement, ça embellit tout ça. Donc écoute, laisse-nous. YouTubeur de qualité, raconter l'histoire des attractions disparues et des parcs disparus.
Non, mais
Il y en a beaucoup aux États-Unis, moi en France, mais c'est vrai que c'est toute une frange, hein, Bright Sun Films, j'arrête pas de le citer parce que c'est un peu
Tu es payé pour ça, je crois.
je suis payé grassement, mais et tu non mais Defunct Land, tous ces
Oui.
mecs-là, ils ont des millions de
Incroyable.
followers quoi. Et le mec il a sorti une vidéo sur les files d'attente qui dure 1 heure et demie et je crois qu'elle doit être au-dessus du million de vues. Enfin tu vois il y a une vraie appétence quoi aux États-Unis pour ce genre de contenu, peut-être moins en France parce qu'on n'a pas autant d'histoires, mais ça va commencer. On a une histoire qui commence à avoir 30-35 ans de parc à thème, ça va venir. Hein.
C'est vrai ce que tu dis, et je trouve que là-dessus on peut leur dire merci à tous ces fans, parce que c'est vrai qu'il y a des fois
Grave.
des travails de recherche et d'archives complètement ahurissants sur ces vidéos. Même moi je me régale hein, quand je vois certains, et je sais pas comment ils font pour retrouver ça, mais il y avait une vidéo sur tu sais, le walkthrough qu'il y avait à l'intérieur du premier château du
Ah
premier Disneyland, avec plein de
ouais.
petites
Ouais.
scénettes où il avait retrouvé carrément
Ah, faut que je vois
plein de
ça.
photos, d'archives, de machin, du show original. C'était vraiment vraiment passionnant. C'est vrai que il y a tout un fantasme autour de ces attractions disparues et ou même des fois ces parcs disparus. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai recherché des choses sur Mirapolis parce que
Grave.
j'avais
Le
eu la chance de
fameux.
visiter Mirapolis une fois avant que ça ferme. Donc j'étais
Avec
vraiment
Carlos?
tout petit petit
Et
et
Johnny Hallyday?
c'était vraiment la fin. Je pense c'était la dernière année avant la fermeture parce qu'il y avait déjà les forains qui avaient installé tous leurs manèges et tout là. Mais j'avais été marqué quoi. Il y avait vraiment des choses qui m'avaient vraiment marqué. J'ai mis du temps des fois à remettre un peu mes idées en place sur ce que j'avais vu. Tu vois la balade dans la Cité 10, le voyage dans l'intérieur de Gargantua et tout. Et là en fait, bah c'est vrai que depuis des années, on trouve de plus en plus de contenu sur Internet, sur YouTube, sur
Ouais.
des vidéos de l'époque quoi, de tous ces rides. C'est assez magique de voir tous ces souvenirs comme ça qui d'un seul coup qui remonte. Enfin, c'est vraiment très très cool. Mais c'est vrai que je pense que comme vous parlez, enfin, tout ce travail, enfin, toute cette nostalgie et tout, elle est vraiment encore beaucoup sur les parcs américains. Sur Universal Studios, peut-être un peu moins par rapport à Disney, mais il y a quand même pas mal de choses sur les rides disparues, du style King Kong, les Dents de la Mer ou des trucs comme ça. Sur les parcs européens, mine de rien, il y a quand même quelques parcs qui commencent à avoir de la bouteille, hein. Et ça commence. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parcs qui arrivent aussi à des tournants avec des gros programmes de changement, de transformation. On voit Fantasyland qui a changé de tête en une poignée d'années. Le parc il est quasiment devenu méconnaissable. Donc c'est ouais, non, je pense que ça va être. Enfin, c'est intéressant de conserver en tout cas maintenant au maximum tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a pour les générations futures, voilà, pour leur montrer, ah tiens, ça c'était marrant, je l'ai fait quand j'étais petit et tout. Mais ouais,
Et niveau archives, moi je m'étais bien amusé justement, un petit peu d'autopromo, ça fait toujours du bien. Sur la vidéo que j'avais faite sur Floralix, espèce de parc Astérix temporaire qui
Ouais,
avait
c'était dingue
existé.
ça.
Ouais. Et là, pareil, je pensais, en fait, j'avais vu des photos et pas beaucoup de vidéos. Et au final, en cherchant bien, et ben, j'ai trouvé plein d'archives. Alors, il y a la mairie d'Orléans qui m'a aidé, etc. J'avais été quand même contacté pas mal de gens. Mais au final, il y avait des archives dispo, un peu planquées partout. Et ça m'a fait super plaisir de les trouver et de me dire, bah voilà, j'ai suffisamment de matériel pour faire une vraie vidéo. Bien documenté et donc voilà, j'espère que, alors maintenant ça va, c'est fort, à partir de maintenant ça continue parce que tout le monde a voilà une caméra dans la poche, donc c'est sûr que tout sera documenté à partir de maintenant, mais voilà, donc que ça soit bien fait. Et je trouve que la VR, c'est un bon moyen justement de le faire aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà fait
la VR
un petit peu...
carrément, toi. Moi, bah, déjà sur YouTube, je suis content, quoi.
Non, je sais, mais plus tard, tu peux te dire, bah, tel roller coaster, je vais me le faire en VR. Tu sais, ça peut être un bon moyen de se remettre dans le bain, quoi.
Un petit Mission Space en VR, peut-être.
Exactement.
Après, la vraie, enfin, c'est vrai qu'on peut se poser les questions du côté aussi, voilà, de l'autre côté du miroir. C'est pourquoi ces attractions, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide redonner un petit coup de boost ou alors vraiment d'arrêter, quoi. Il y a vraiment la question de la popularité, de la fréquentation. C'est vrai que si on a, d'un point de vue rationnel, à un moment donné, une attraction, c'est aussi des mètres carrés au sol, et qu'un parc, à un moment donné, ça exploite ces mètres carrés. Les mètres carrés doivent être rentables. Et voilà, quand une attraction a fait son temps et que elle ramène plus le gens, bah, on a des fois besoin de la remplacer par quelque chose de plus populaire qui va ramener plus de visiteurs. Donc il y a derrière tous ces changements, il y a des fois aussi des logiques purement purement industriel, c'est pas juste pour l'art, mais c'est qu'à un moment donné, une attraction, elle est pas éternelle et elle viendra être remplacée forcément un jour par une plus performante et une plus, je sais pas moi comment on peut dire, motivante, quoi. Voilà.
Pertinente.
J'étais en train de bâcher mon pauvre Goudurix tout à l'heure, mais mine de rien, Goudurix, bah, la file d'attente continue de se remplir. Donc le parc, enfin à un moment donné, voilà, il n'a pas. Clairement, oui, pour le coaster fan, on pleure, ouais. Parce qu'il y a un bel emplacement et on aimerait avoir une nouvelle machine, mais en même temps, bah, Goudu, il continue à bouffer du visiteur. Aller bien les recracher avec la nuque complètement. Mais en attendant, les gens aiment bien parce que ça secoue encore et on est encore. Hein, bah oui, les sensations, ça fait mal. Ça,
c'est on a la tête en bas, donc c'était
ça
bien.
Commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Hein. Les gens commencent à voir qu'on peut avoir de belles sensations sans se faire mal, mais.
Ouais.
Est-ce que justement, je me dis, est-ce que toi, quand tu disais une attraction, est-ce que t'as une idée de la potentiel, enfin le nombre d'années pendant lequel cette attraction va être potentiellement exploitée? Est-ce que tu sais, t'as des plans qui vont jusqu'à 15 ans, 30 ans ou moins que ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou pas quand tu designes tes attractions?
Enfin, à mon niveau. On essaye de faire en sorte que l'attraction soit la plus sympa, la plus réussie, la plus durable. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Non, même les chefs de projet ou même en amont, généralement, on ne va pas se dire « Ok, on construit ça pour 5 ans ».
Ouais.
Alors, okay. C'est arrivé des fois qu'il y a des attractions un peu temporaires, entre guillemets, qui étaient là pour augmenter un peu la capacité voilà, sur une courte période. Mais généralement, voilà, on ne se pose pas la question. Quand on construit, on a envie que ça reste le plus longtemps possible. Quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Donc,
mais je me disais, voilà, notamment,
on ne construit jamais dans l'optique de se dire, bon, allez, on sait qu'à un moment donné, il y a certaines machines qui, au bout d'un certain nombre d'années, vont être dépassées ou seront remplacées, mais faut que ça dure le plus longtemps possible. Ouais.
Ouais.
Après, au point de vue du thème et tout ça, tu voulais dire, par exemple,
oui,
de penser, de se dire, est-ce qu'il faut
exactement.
Que ce soit des thèmes? Ah, oui, d'accord.
En fait, je me disais ça parce qu'il y a peut-être des, alors toi, tu nous avais parlé du Conda, c'est des thèmes un peu intemporels, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses où tu peux dire, ah, là, on est sur le pic d'une mode, tu vois, de tel ou tel, look and feel, de tel ou tel truc. Est-ce qu'on prend le risque de continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'au contraire, on prend, un thème qui pointe le bout de son nez et dont sur lequel on fait le pari que ça va durer? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête?
Ça c'est vrai par rapport aux thématiques, la question se pose souvent. Bah, quand on a affaire à une licence, de toute façon là il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est comme ça et l'attraction sera populaire le temps que la licence l'est. Bon, peut-être même qu'elle va survivre à la licence hein, certaines fois. On a vu des attractions des fois qui étaient même des fois meilleures que le produit filmique ou animé.
Mais des noms.
Cars. Hein.
Oui, par exemple.
Ah
ouais,
oui,
c'est un bon
exemple. Enfin, moi,
c'est les Lego et les couleurs.
Je précise.
On peut aimer Cars. On a tout à fait le droit d'aimer Cars. Mais
on a le droit, on a juste mauvais goût.
Après, oui, pour
droit,
des attractions vraiment où c'est une création complète, on va faire attention. Voilà, en effet, de pour travailler sur des thèmes, comme tu disais tout à l'heure, assez intemporels et qui, on va faire gaffe que ça se démode pas trop vite. Donc c'est vrai que les thèmes comme sur Conda ou sur Karma World, par exemple, à Walibi Belgium, où on est emmené dans un environnement très Bollywood, très indien. Il y a de la patine, il y a du détail, il y a de la ferronnerie. On sait que c'est des choses qui vont bien vieillir. Voilà, c'est pas, c'est pas un thème qui va se démoder ou enfin on est je pense voilà c'est des choses qui sont très ancrées dans l'inconscient collectif et qui peuvent rester. Après ouais bah sur certains projets par le passé des fois il y avait la thématique musique qui était ouais. sur laquelle j'avais dû un peu bosser où là ça avait été un peu plus complexe ouais parce que dès qu'on se met à travailler avec sur des graphismes sur des choses voilà c'est ça, c'était ouais, moins tangible que du décor c'est pas facile et puis bah ça vieillit pas très très bien quoi. Donc et on l'a vu d'ailleurs sur Rockit hein aussi une attraction d'Universal Studios en Floride.
Oh, dis pas du mal de Rockit, attention, j'en ai parlé la dernière fois avec
voilà,
les graphismes et tout.
Les graphismes
sont
déjà
ouais, ultra ringards. C'était
ah, je me souviens voilà, plus. Attends, fais voir.
C'était le retour des années 2010. J'ai l'impression que les fresques tout délavé, tout voilà. les fontes déchirées, des trucs comme
avec
ça c'était
des,
un peu
de la trame dans tous les sens, enfin c'était pas ouais.
Ça, en fait, ça fait plus aujourd'hui une esthétique Disney Channel version rock, oui. Camp Rock et tout ça ouais. que le rock and roll pour de vrai quoi. Voilà.
Ou alors, oui, bah. tu vas voir des thèmes aussi que tu vas retrouver un peu, par exemple à Plopsaland, tu sais, sur toutes les licences qui pour nous sont totalement inconnues, mais de toutes les séries télé. Je sais plus là les trois chanteuses, là, espèce de
girls. Les cadris.
les cadris. Voilà, des choses comme ça qui. Enfin.
Ah, ça dépend des goûts.
Ouais, mais t'as vu, je sais pas combien ça va faire encore. Ils vont encore déthématiser un truc qu'ils avaient déjà rethématisé il y a 3 ans, il me semble, une espèce de coaster.
Ouais, mais les thèmes sont tellement là et t'as fond.
Elles sont... ah, bah, oui, c'est vrai, voilà, mais ça change. C'est... Voilà, c'est. Mais après, c'est peut-être leur concept. Hein. Je veux dire, c'est un truc aussi qui est
exactement.
Valable de se dire qu'on fait des trucs légers et qu'on change régulièrement.
En tout cas, ils n'ont pas besoin de faire plus pour attirer beaucoup de monde à Plopsaland. Je pense que donc ça, ouais, effectivement, c'est cyclique et tous les 10 ans, ils rethématisent leur petit coaster sur une autre de leurs licences. On parlait des licences. Ouais, on est en train de dévier un petit peu sur les licences. Donc, puisqu'on en parle, je vous ramène à notre épisode 1 avec Julien Simon. On avait fait un épisode entier sur, je crois que c'était le premier épisode sur les licences, les IP dans les parcs d'attraction. Mais ouais. En fait, on parlait de la pérennité et de la longévité, et en fait, j'ai l'impression que ça dépend tout simplement de la stratégie de ton groupe. C'est-à-dire qu'un truc comme Disney, qui a une machine à créer de l'IP, ben forcément, leur direction parc va sur l'usage des IP dans les parcs d'attractions. On a déjà beaucoup parlé, je trouve, de ces trucs-là, mais en fait... Un truc dont on n'a pas parlé quand on parlait d'Avengers Campus et qui m'est venu un petit peu plus tard, c'est si tu regardes l'attraction Spider-Man Web Adventure, le truc où on lance les trucs là, en fait c'est basé sur une version de la licence Spider-Man, la version actuelle, mais Spider-Man c'est quasiment rebooté tous les 10 ans. Donc en fait, quand il y aura des nouveaux films avec des nouveaux acteurs qui vont jouer Spider-Man dans une dizaine d'années, en fait cette version de cette attraction-ci qu'on a au Walt Disney Studios, je me demande si ça va pas se ringardiser très très vite, encore plus vite qu'un truc comme Cars qui.
Ouais, mais ils vont changer le film dedans, ça c'est facile.
Ouais, enfin, il y a quand même beaucoup de références au. Il y a plus que le pré-show avec Tom Holland, non.
Ouais.
Ouais, quand même. Et donc je me dis, en fait, la stratégie, j'ai l'impression que la stratégie. Oh là là, on dévie du thème. Que la stratégie des parcs Disney de tout miser sur les IP. Un peu IP of the month, quoi, le truc qui a marché l'année dernière. Est-ce que ça va vraiment pas poser des gros problèmes où il va falloir tout rethématiser dans 20 ans, tu vois? Mais bon, on verra. Regarde, tu regardes le parc Hollywood Studio, comment ça s'appelle? Truc Universal, là, en Floride.
MGM. Ah non, bah, non. Universal Studios.
Universal Studio Florida. Bah, en fait, il reste plus qu'une attraction et demie de l'ouverture. Il y avait Retour vers le futur, il y avait ouais. King Kong, il y avait Backdraft, bah tout ça en fait au fil du temps.
Jaws.
J'ai pas l'impression que c'est Jaws, bien sûr, ouais.
Il reste que E.T., je crois. Et ça, alors par contre, le jour où il le vire,
il paraît qu'il y a un contrat avec Steven Spielberg où en fait ils sont obligés de laisser E.T. tant que ce parc est ouvert ou je sais pas quoi. une attraction basée sur
c'est
un film.
C'est les trucs que tu sais, j'aime pas, j'aime bien, quoi. De toute façon, voilà.
J'ai jamais fait. J'ai regretté de pas l'avoir fait parce que ça a l'air d'être un bon nanar.
Je suis super excité de le refaire et après j'arrive à la fin du tour, j'ai les yeux qui saignent et tout, mais je suis content de l'avoir fait, tu vois.
La première partie est très très belle.
Elle est fun.
Dis-nous l'idée de cette attraction parce que t'es sur la planète D.T., quoi, c'est ça. Donc un truc qui n'existe pas du tout dans le film a été inventé pour l'attraction. Donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est une continuité.
Non, c'est encore mieux que ça. En fait, il y avait un sequel de E.T. en production. Donc en fait, ils ont conçu l'attraction sur le premier film Et le deuxième film, finalement, si la légende est vraie, le deuxième film n'a jamais vu le jour, et donc l'attraction...
Imagine ça, il se serait pu donner, mais enfin, franchement, enfin, tu vois ce final, là, dans cette espèce de planète, avec des trucs, mais...
C'est horrible.
Dans mes pires cauchemars, j'ai jamais vu ça, mais c'est génial. Putain,
on n'est pas loin du niveau flippant d'Europa Park, tu sais, Ciao Bambini et ce truc-là où t'es là, mais les animatroniques me regardent bizarrement et ils veulent me tuer. Mais en fait, c'est un peu ça.
C'est typiquement le genre d'attraction que tu vas regretter. Évidemment, tu sais pertinemment que elle est pas éternelle et que ça commence à sentir un peu la poussière là-dedans. Mais t'es quand même toujours content d'y aller, tu vois.
Moi, j'ai pas ça du tout avec Itchy. Ouh là là.
Je l'ai vraiment, ouais. Ouais.
Après, vous parlez à quelqu'un qui a été traumatisé par E.T., le film extraterrestre. Mmh. Pendant un an après avoir vu ce film, je regardais sous mon lit absolument tous les soirs pour voir s'il y avait pas des extraterrestres en dessous, quoi.
Mais pourquoi il faisait flipper?
On ne sait jamais. Quoi?
E.T. en lui-même, il te faisait flipper?
Mais quoi? Mais évidemment! Mais c'est vous qui êtes bizarre. Excusez-moi,
je suis d'accord. La première fois que j'ai vu le film, quand tu le vois fois dans le champ de maïs là, mais
c'est effrayant.
T'es en PLS quoi. C'est vraiment assez. Il a quand même un design assez repoussant. Mais
apparemment, lui, il a l'air de trouver sexy. Bon,
on s'y habitue. En fait, c'était tout le génie. Oh merde, tous ces designers là de ces films des années 80 là qui te sortaient quand même des bestioles vraiment. Voilà, pas super joli, mais auquel tu t'attaches, un peu comme les Gremlins, quoi.
Mais attends, ride, tu es sur un vélo, en fait, tu es sur le vélo du
film.
Ouais,
c'est ça.
Ah, mais ça a l'air trop bien, en fait.
Non. Vraiment, je pense qu'à l'ouverture, c'était déjà, à mon avis, un truc, qui a vraiment marqué. Maintenant, ouais, c'est clair qu'il y a... Ça sent, comme je dis, c'est un peu poussiéreux, mais ça garde beaucoup de charme. Enfin, moi, je suis toujours très, très content de le refaire.
Et j'ai l'impression, tu vois, pour revenir sur nos débats tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une attraction qui, clairement, tout le monde reconnaît. Le premier tiers qui est très très beau, et les deux derniers tiers qui sont vraiment nazes et vraiment pétés, éclatés au sol, quoi. Et que si Universal osait annoncer qu'ils allaient la dégager, malgré toutes les failles que tout le monde y trouve et que finalement la plupart des fans locaux ils vont jamais foutre leur cul dans l'attraction, parce que ils en reconnaissent bien les limites, ben ça gueulerait quand même. Parce qu'on touche pas à mon enfance, quoi. Tu vois,
ça revient beaucoup.
De toute façon, je pense que sur toutes les attractions Universal, ça avait gueulé aussi. Hein. Quand Jaws a fermé, c'était pareil. Mais c'est pas. En même temps, il reste toujours une version de Jaws au Japon qui fonctionne. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a encore une relique, tu vois, comme ça, qui fonctionne ailleurs, c'est peut-être un petit peu moins difficile à.
Enfin. Tout le monde a pas les moyens de se.
Non, je sais, mais les vrais fans, c'est quand même.
<c'est>, bon. D'accord. Bon.
Mais les fans, ils sont beaucoup plus friqués, je pense, maintenant qu'on l'était à l'époque.
Ah ben, ouf.
Ah, je te laisse. Une grosse connerie,
je te laisse.
Non, ils ont vieilli aussi.
Attendez, écoutez, si vous êtes fan en train de nous écouter,
mais attention, voilà, j'ai mal formulé mon truc, c'est que maintenant, voilà les fans qui ont connu toutes ces attractions et qui y tiennent ont peut-être plus de moyens pour se rendre essayer des choses. Les fans d'aujourd'hui, ils sont enfin E.T., bon, je pense pas que ça leur provoque plus d'émotions que ça, quoi.
Après les voyages, le prix des voyages et des grands voyages, c'est aussi beaucoup démocratisé en 50 ans.
Ouais. Ouais. Sauf l'entrée justement pour Disney, quoi. Donc ça
ça dépend. À Tokyo, ça coûte que dalle. Les entrées à Tokyo, la bouffe non plus là-bas, c'est pas comme chez nous, quoi.
On fera un grand épisode.
C'est quoi, justement, voilà, vous en avez d'autres exemples comme ça d'attractions qui sont un peu vos petits plaisirs. Vous savez que ça va peut-être dégager dans les 5 ans qui viennent, mais vous êtes quand même toujours content d'y aller.
Au jardin d'acclimatation, et c'est vraiment un truc où tu dis, mais il y a rien, quoi. C'est un bateau dans du béton et genre il y a un crocodile tout pété qui est là. Et pourtant, j'ai pas de souvenir particulier avec cette attraction, mais c'est tellement relaxant, c'est tellement, tu vois, tu te dis et pareil, là, l'empreinte au sol est énorme, donc tu pourrais mettre tout un tas de trucs à la place. Mais il y a des attractions qui
que ce truc est classé monument historique, hein.
Je
plaisante, mais au jardin d'acclimatation, en effet, c'est la rivière enchantée, c'est t'y touches pas, c'est pas la peine. Oublie, quoi.
C'est ça, et le train, je pense, les deux, c'est intouchable. D'ailleurs, il y a eu une petite émission récemment sur le jardin d'acclimatation, je sais plus sur quelle chaîne, où c'était intéressant de voir qu'ils ont tout un tas de règles que les autres parcs n'ont pas, notamment tu peux pas faire de coaster qui dépasse la taille des arbres en fait, parce qu'ils veulent garder justement cet aspect jardin et conserver et faire en sorte que la nature reste un peu omniprésente.
Oui, donc je confirme.
Donc t'as bossé avec eux un petit peu?
Oui, j'ai eu on a fait une petite expérience avec le jardin et c'est ultra ultra contraint. Mais voilà. Ouais. Ah ouais.
Ouais, ouais. Bah, écoute, après, j'imagine que c'est ce qui fait le charme du truc aussi, enfin, en tant que visiteur, tu vois, de garder un peu cet esprit jardin. Moi, je trouve ça chouette. Après,
mais c'est vachement bien ce qu'ils ont fait, hein. Vraiment, par rapport à ça, justement, bah, voilà, il y a des gens qui regrettaient l'ancienne version du jardin, d'autres qui étaient ravis de la nouvelle version, et la nouvelle version, je trouve qu'elle a bien conservé ce qui devait être conservé en termes d'identité. Et vraiment tout ce qui a été fait en termes d'aménagement, la thématisation des manèges et tout, c'est vraiment un très très joli travail.
Ouais, ça me fait un petit peu penser au développement d'Efteling en fait, où on a, enfin, au jardin d'acclimatation, ils ont beaucoup, embrasser le passé historique. Ils auraient pu mettre des manèges de foire fluo et des trucs dégueulasses comme ça, et ils sont allés vers une route un petit peu plus nostalgie pour tirer profit de l'histoire de cet endroit, ce que je trouve assez malin, quoi.
Et là-bas, il y a un ride qui est, alors rien à voir avec tout le reste, comme tu dis, je vois les chaises volantes, etc., qui sont très belles, et même le dernier coaster là, avec les voitures américaines des années 50, mais il y a un truc de VR, de kayak, je ne sais pas si vous avez vu dans un coin, ou de rafting, je ne sais pas.
Ah, je ne l'ai pas fait, ça.
Ouais. Tu es sur un truc de rafting, donc c'est quand même ultra... Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais rien que de regarder les gens le faire, en fait, c'est excellent, parce que tu es avec ton casque de VR sur un truc de raft qui gigote un peu vaguement, donc je ne sais pas quel genre de sensation ça procure, mais à regarder de l'extérieur, c'est très très drôle.
Alors qu'ils avaient toute la possibilité de mettre des kayaks sur un de leurs lacs, quelque part.
Ah, c'est vrai, entre deux bateaux. Non, mais pour le coup, ça prend aucune place. C'est vraiment, t'as deux petits kayaks.
La VR, c'est moderne, c'est le monde de demain, quoi.
Ah, mais je crois que j'ai jamais fait de.
C'est peut-être pour bouffer de la part de marché au Futuroscope, peut-être.
Vous avez fait, vous, des trucs en VR un petit peu, des rides
J'ai fait de la VR, ouais, bon.
Mais sur un...
Ah non, pas sur un coaster.
Sur un coaster, j'ai envie d'essayer, moi, ça.
Ah si, sur le coaster, oui, ça, c'était à Europa Park, j'avais fait...
Ça rend bien deux, ou pas?
En tout cas, celui sur... comment il s'appelle, celui-là, le train, là?
L'Alpen Express,
il était vachement bien, ouais. J'ai moins aimé celui sur le Pegasus, là, qui était un peu plus court. Et un peu mais en tout cas ouais non sur la peine c'était vachement bien, très sympa.
Cool.
Mais bon, voilà quoi, je sais même pas si ça continue d'ailleurs ce genre de choses.
C'était un des moyens de revamp une attraction quelque part, tu vois, tu pourrais dire c'est une fois que la techno sera vraiment peut-être plus, tu vois, que les casques sont moins gros, que le FPS sera ultra, enfin tu vois, que la synchro, tout ça sera très bien fait, tu pourrais dire on met un coaster avec zéro thématisation et puis tu choisis toi-même, tu peux faire, tu vois, 5-6 versions du truc, les gens peuvent choisir.
Voilà une idée pour Avengers Flight Force, tiens, des casques VR, des casques tout simplement.
Bah des retours que j'ai eu, en effet, c'est très 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 sombre à l'intérieur.
Ah, c'est-à-dire, alors c'est tellement sombre que tu sais, donc il y a quand même je sais pas entre 5 et 10 écrans où il se passe des trucs comme sur Space Mountain Star Wars. Mais entre les écrans, il peut se passer genre 15 longues secondes où t'es dans le noir total, et quand j'ai le noir total, c'est total, et c'est le noir tellement total que tu sais, il y a toujours des équipements techniques où il y a une petite lumière LED qui clignote, et ben en fait, elles attirent ton attention, des petites lumières vertes, rouges à gauche à droite.
C'est ouf.
Tellement il fait noir, quoi.
La rumeur dit, toi tu n'as pas le droit de le dire Guillaume parce que tu es un insider, mais justement j'ai lu ça sur le compte Outsider, qui sont généralement bien renseignés.
Bah, c'est apparemment, faux, je précise que c'est faux, ils sont mal renseignés. Ah par oui.
non mais enfin ils disent pas grand chose, mais ils disent que voilà, que ce serait remonté aux oreilles du management et que effectivement c'est un problème qui était tout de suite identifié et que ça a gueulé mon gars en mode qu'est-ce que vous nous avez fait avec ce ride, il faut changer ça, et que une réhabilitation serait déjà en projet. Donc écoute, on verra.
Et comme je dis toujours, hein, quelque chose, voilà, un échec, c'est pas la volonté de quelqu'un qui dit ah, on va faire de la grosse merde, allez on assume. Non, c'est toujours malheureusement, ouais, cette espèce de d'effets de boule de neige, quoi, où d'un seul coup, il y a plein de choses qui s'enchaînent, soit des fois de mauvaises décisions, soit des problèmes de budget, de autres, qui font que on n'a pas un résultat à la hauteur. Alors après, il y a des parcs qui ont le moyen de peut-être essayer de remonter le truc, et puis bah d'autres, des fois, bah tant pis, bah c'est, on va laisser un peu le machin vivoter comme ça, et puis on verra dans 5-10 ans, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est, on essaye quand même généralement, hein, de réussir des choses, parce que c'est quand même toujours des sommes d'argent assez conséquentes, hein, qui sont dépensées, donc on peut pas se permettre de faire des, enfin voilà. On essaye en tout cas de toujours mettre de la meilleure volonté du monde pour que ce soit le meilleur produit possible. Mais des fois, il y a toujours des petits grains de sable et des petits aléas qui font que ça marche pas forcément tous les coups.
Et toi, tu parles de cet aspect-là, mais il y a aussi parfois des attractions qui sont remplacées, pas parce qu'elles étaient foireuses, mais parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut développer un parc et qu'il y a plus de mètres carrés. Enfin, c'est pas juste cette attraction. Foire, on la change, on la remplace, quoi.
Ah ouais, non, totalement. Il y a à un moment donné l'attraction, il y a toujours cette balance, hein, ok. Est-ce que cette attraction, par rapport à la surface qu'elle occupe, attire encore suffisamment de visiteurs, donc participe à la capacité globale du parc. Mais il y a un moment donné, quand on voit que voilà, tous ces espèces de petits vases communicants, bah, qu'il y a vraiment des déséquilibres, c'est-à-dire que bah, ça prend beaucoup de place, les gens, ils ont un désintérêt total pour la chose, et que bah, de toute façon, c'est ce qui sonne souvent le glas pour l'attraction, quoi. Ou alors des problèmes techniques à répétition, un désintérêt des visiteurs qui font qu'à un moment donné, la décision est prise de se dire, bon, bah, on s'en débarrasse et on récupère la place et on met autre chose.
Mais alors, là, je vais peut-être parler d'une stratégie qui est peut-être en cours chez Disney depuis que Bob Chapek était arrivé à la tête des parcs et des resorts de Disney. Il y a aussi un truc un petit peu plus, je sais pas comment dire, une stratégie qui est en fait de, pour faire des économies, j'ai l'impression, enfin je veux dire, c'est écrit nulle part, mais pour en fait faire venir et revenir les gens dans les parcs sans devoir créer des nouvelles attractions et de l'infrastructure de A à Z, plutôt une stratégie maintenant de rethématiser des trucs existants, les Gardiens de la Galaxie, il va y avoir Splash Mountain, Gardiens de la Galaxie, donc à Epcot comme à la Tour de la Terreur, c'était des attractions, ils ont gardé le bâtiment, ils ont foutu un nouveau truc à l'intérieur. Il y a Pixar Pier, même chose. Il y a quand même pas mal d'exemples.
Fly Pixar Force, Pier, c'est un bon exemple d'un truc qui a vraiment, enfin, qui a été un overlay total, enfin un changement pratiquement de parc.
Mais tu vois là, il y a une dimension économique, c'est-à-dire en fait on met nos IP un peu plus récentes sur des trucs existants, ce sera moins cher pour faire venir du monde et ça fera venir du monde. C'est bien sûr écrit nulle part, mais tu sens qu'il y a quelque chose de ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui empêcherait Disney de rajouter des nouvelles attractions? Un truc comme Splash Mountain, ouais, il y a la question du thème qui pose problème, c'est vrai. Là, on peut imaginer que les Gardiens de la Galaxie à la Tour de la Terreur, ils aient construit une attraction de A à Z avec un bâtiment entier sur cette licence-là, au lieu de, tu vois, ça aurait augmenté la capacité, je sais pas. Je pense que c'est une raison qu'on n'a pas trop évoquée ce soir, mais je sais pas, il y a quand même, dans certains cas, des raisons un petit peu plus budgétaire, économique, de changer le thème plutôt que de reconstruire un truc en plus, quoi.
Oui, puis si les parcs après ils souffrent pas de sous-capacité, tu vois, je connais pas les fréquentations là de par exemple California Adventure, mais une nouvelle attraction, bien sûr, ça attire du monde, mais ça va permettre aussi à un moment donné de désengorger d'autres files d'attente. Parce que voilà, le parc a besoin de s'agrandir, et de temps en temps, tu peux avoir des files d'attente, voilà, des files d'attente interminables. Donc c'est l'intérêt de mettre une nouvelle attraction. Après, ce que tu viens de dire, en effet, c'est presque plus cosmétique. Ça leur permet, voilà, ils n'ont pas besoin de faire sortir un nouveau bâtiment de terre. Ils vont juste rhabiller une attraction existante. En plus, par rapport au Paradise Pier, c'était pas vraiment des attractions cultes, donc on pouvait y foutre un petit peu ce qu'on voulait là-dessus. Les gens allaient pas gueuler de toute façon. Et mais on rajoute du thème, on fait comme si c'était un peu nouveau et tout, et ça fait voilà, ça va maintenir une fréquentation. En tout cas, ça va peut-être même rapporter un petit peu plus de gens, mais pour autant, l'investissement est moindre. Enfin voilà, c'est des calculs à mon avis qui sont faits un peu plus complexes.
Bien sûr.
Ces sujets, mais en tout cas, c'est les rethématisations de temps en temps sont en effet, enfin les réhabillages thématiques, ça permet de faire de la nouveauté à moindre frais, quoi. Mmh. Et sur des fois en plus quand c'est appliqué comme je te disais sur des attractions qui sont pas spécialement hyper populaires, bah c'est double, ils sont doublement gagnants. C'est un peu plus compliqué en effet quand ils commencent à s'attaquer à des choses un peu plus cultes entre guillemets, voilà. Splash Mountain, c'est un très bon exemple. On sent qu'il y a vraiment deux camps qui se sont affrontés par rapport à ça. Bon, après, comme tu dis, c'est d'autres raisons, hein, par rapport à la rethématisation. Mais on sentait que là-dessus, c'est une attraction où beaucoup de gens ne comprenaient pas d'un seul coup, mais pourquoi on va tout changer ? Enfin, voilà, c'était... Mais là, les raisons sont différentes.
Ouais, il y avait une dimension politique aussi à ça, mais c'est vrai. C'est pour ça, nous, s'ils nous font Splash Mountain, moi je vous le dis, il faut qu'ils nous mettent The Princess and the Frog directement et on sera trop contents. Donc, j'ai décidé, de toute façon, je leur ai dit, c'est ça la place de Star Wars et c'est bon, c'est acté.
Ah, tu les as appelés pour leur dire?
Je les ai appelés, je leur ai dit Star Wars, on s'en fout, c'est fini maintenant.
Ah, donc dans le prochain Space Mountain, c'est la princesse et la grenouille, c'est ça l'exclu?
Mais non, pas Space Mountain, l'attraction du le land, le troisième land de studio.
Ah, le troisième land de studio, ok, le fameux, ouais.
Le fameux.
Est-ce qu'il y aura seulement un troisième? On ne sait pas. Il y aura peut-être un lac qui va rester vide.
On a entendu plein de trucs là-dessus. Je crois bien que j'avais lu des machins. C'est comme quoi c'était peut-être une zone Roi Lion. Enfin.
Ouais, mais il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Ouais. Le Roi Lion revient, qu'est-ce que c'est d'autre,
Avatar y est passé aussi, enfin, moi, je crois que toutes les éventualités ont été.
Mais parce que, c'est vrai qu'il y a une interview, il y a une interview de, comment elle s'appelle,
Natasha Rafalski.
Natasha Rafiki. Dans le Parisien, j'arrive pas à prononcer son nom, c'est quoi en vrai?
Natasha Rafalski.
Rafalski, d'accord.
J'espère que je le dis correctement.
Non mais je le lis, tu sais, je n'arrive pas à mémoriser c'est trop compliqué, trop de consonnes. Bref, tout ça pour dire que elle était interviewée par Le Parisien et la personne qui faisait l'interview a posé la question fatidique et a dit on n'entend plus parler du troisième land et tout, et elle répond on est en train vraiment une réponse de Normand en disant on est en train de travailler sur le thème du troisième land. Et c'est à peu près ça sa réponse. Donc elle n'infirme ni ne confirme pas le fait que ça soit Star Wars. Donc évidemment, ça laisse place à toutes sortes de spéculations.
Ah, par
donc,
contre, voilà, moi, j'étais impressionné par son media training. C'est incroyable, quoi. La réponse avec rien qui dépasse. Ouais. J'ai l'impression que cette réponse-là a été préparée a été peut-être éditée, parce que Le Parisien et Disneyland Paris sont quand même des partenaires pour beaucoup d'opérations promotionnelles. Hashtag arnaque quand ils font une interview de la présidente. Bah ouais, elle est annonceur dans le hein, voilà. Ah, tout est connecté, les Illuminati et les reptiliens. Ok.
Non, mais on va quand même dans le bénéfice du doute ne pas accuser sans preuve le journaliste de faire mal son travail, mais c'est possible que ça soit un petit peu édité derrière sans son accord. Mais effectivement, très bonne réponse. Après, c'est son métier hein, de faire des de répondre correctement à la presse. Donc, on verra.
Elle est meilleure que Bob Chapek, d'ailleurs, dans son média training, je trouve. Mais c'est un autre des. Bah, bon. Bien.
Ça, au moins, ça fait l'unanimité. Enfin, non, d'ailleurs, même ça fait pas l'unanimité. J'allais dire, quand une attraction est toute neuve, un land est tout neuf, au moins, il n'y a pas de question de se dire, est-ce qu'on rase quelque chose? Donc, ça fait l'unanimité.
Ah, mais je peux dire, avec Flight Force, je dirais pas que ça fait l'unanimité. Il y en a qui sont prêts à le raser.
Mais Flight Force, c'est pas à nouveau. Attends, c'est, ils ont rasé la meilleure attraction. Qu'est-ce que tu racontes?
Je pense qu'il est temps d'aller coucher Louis. Je pense.
avant que je me transforme en vieux tonton radoteur. Et moi alors.
La conclusion du podcast. Raison Flight
Donc
Force.
Justement, la conclusion c'est ok. Raison Flight Force. Très bien. Merci d'être resté jusqu'ici pour cette conclusion. J'ai l'impression que nous trois, on n'est pas ultra attachés, si je comprends bien. Tu vois, on a nos souvenirs et tout, mais on est voilà. S'il fallait. Quelle est votre attraction préférée? Ever.
Bah,
je vais vous dire, et la question qui va suivre, c'est, et si je disais qu'après-demain, on la rethématise sur Star Wars ou La Princesse et la Grenouille?
Ouais.
Rise of the Resistance, mais version, princesse et...
Bah, par exemple, moi, je vais prendre un classique de chez classique, mais c'est vrai que Pirates des Caraïbes, si tu me l'enlèves ou si tu me la rethématises, enfin, ça a été, enfin, une toute petite partie sur le, du coup, la franchise film, mais ça s'intègre bien, je trouve. Ouais. Non, mais si on me dit tout le ride, le bateau reste, donc comme ce qu'ils ont fait avec Flight Force, le bateau reste, le parcours reste, mais tout le thème part en mode
dans le noir,
mode,
hein.
En mode
il
Marvel.
S'éteint les lumières.
Ouais. Alors là, mon gars, je vais faire comme les Américains, je vais devant l'ouverture avec mes petites pancartes et je fais
la carène.
Je fais la grosse carène, ouais, ma petite manif à moi-même. Donc, ouais, je dirais Pirates des Caraïbes, ça a pas touche, quoi, mais je pense pas que ça n'a jamais été évoqué. Je pense que c'est assez safe.
Ouais, les ajustements ont été faits, ouais. De toute façon, les petites choses qui devaient, ouais. Bah, moi, c'est un peu pareil, c'est, si on avait touché à Phantom Manor, je sais pas ce qu'ils auraient pu nous rajouter à un moment donné, comme licence ou machin qu'ils auraient pu rajouter là-dedans, mais j'en aurais été malade, quoi. C'est pour ça que j'avais très très peur quand j'avais appris à l'époque qu'il allait y avoir des petits changements dans Phantom, et finalement
parce que la rumeur à ce moment-là c'était Burton ou c'était quoi déjà,
il y a eu ça ouais. Mais bon,
ah bon, ouais, mais ça c'est des guerres de fans qui veulent faire
ça,
une
ça pas
YouTube
été
un
non il y a pas eu de voilà il y avait pas eu de comme ça de trucs comme ça qui avaient été sortis, oh là là mon dieu ça va être ça, non je crois qu'il y avait des principalement ils avaient parlé éventuellement de rajouter l'étrange Noël de Mr Jack, mais plutôt
oui,
un peu en façon holidays comme aux États-Unis.
Oui,
il me semble.
Ouais.
Mais non, ça aurait été, j'en sais rien, moi, que d'un seul coup, ils remplacent la salle de bal par des grosses projections moches ou des trucs comme ça.
Ouais, ouais. D'ailleurs, la salle de bal, puisqu'on en parle, vous vous souvenez que quand l'attraction a réouverte pendant littéralement un jour, ils avaient remplacé la musique de Phantom Manor,
oui.
Qui est je trouve une des plus belles pièces musicales pour une attraction ever, par la musique
ouais.
Beaucoup, enfin, la musique des Haunted Mansions américaines qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus un peu gag, je sais pas comment dire,
ouais.
Ça marchait pas du tout. Et je sais pas, en 24 heures ça a sauté, et tu dis bah quel était le projet en fait, c'est vous aviez réfléchi à ça, vous l'avez fait,
est-ce que c'était une stratégie pour faire genre on écoute les fans ou j'en sais rien, enfin il y a je sais pas. C'est vrai que c'était un peu
mais ça,
je sais pas
meilleur.
Qui, il y a, à un moment donné, a eu cette idée de se dire, la musique américaine, la maison hantée américaine, elle sera mieux que celle qu'on a à Paris et on va la mettre. Parce que c'est un peu tordu quand même comme mode de pensée. Mais, ça a été fait. Donc, heureusement, ça a duré 24 heures, ça a duré 24 heures. Et si on va du côté du Gaulois, alors s'il y a bien un truc à ne pas toucher, là, je sors les griffes, c'est l'amuse-bouche, quoi, la poubelle parlante. Si quelqu'un déplace ou touche cette poubelle,
ouais, mais attends, Julien,
ça
la poubelle parlante, excusez-moi, mais c'est déjà repompé d'Efteling, donc on va bien
peut-être,
se calmer.
Peut-être, mais elle a acquis, au fur et à mesure des années, voilà, un statut culte, voilà, qu'elle est même...
mais c'est Pépon si...
Elle a même son Twitter, enfin elle est
oui,
sur les
comment
réseaux sociaux.
Oui, comment il va, la personne derrière Twitter, j'ai pas vu depuis un moment, mais c'était un truc.
Ouais, on l'embrasse, faites un petit tweet,
ouais.
Personne derrière la poubelle parlante,
ouais,
ça fait plaisir de voir vos nouvelles.
Non, mais c'est rigolo, mais... Je pense pas. De toute façon, elle est placée à un endroit où je vois pas pourquoi est-ce qu'on la retirerait. Mais voilà, c'est le genre de petit détail.
Jamais dire jamais, hein, Julien.
Mais quand tu allais au parc Astérix, à un moment donné, voilà, t'es obligé d'aller foutre un truc dans la muse-bouche, quoi.
Eh bien, est-ce que vous pensez qu'on atteindra un jour le statut où vous savez qu'il y a des ventes aux enchères régulièrement de vieilles pièces de Disneyland en Californie, et il y a des bouts de des billboards qui sont vendus, des Dumbo des, volants, enfin tu vois, où c'est des millionnaires californiens qui achètent ce genre de trucs pour mettre dans leur salon ou leur jardin. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à ce stade-là ici en Europe sur le jour où la poubelle parlante dégage, est-ce que elle
mais
sera
cas,
vendue
Guillaume.
Aux enchères ou j'ai raté le truc, ouais.
Mais
ouais.
Au parc Astérix,
mais
tu
oui,
as souvent de la vente d'objets, des morceaux d'attractions, des choses comme ça.
Ouais, mais des
ils ont vendu des
ouais,
chariots
des...
même récemment.
Oui,
là,
oui, récemment,
ah
il y a
ouais
un chariot de Zeus qui
ouais
a été vendu, des clous,
des voilà, clous,
des morceaux de rail,
Mais ouais, on a déjà parlé, Guillaume, je te l'avais dit la dernière fois, tu as mal écouté, je t'ai dit que les clous, ils vendaient des clous et que je trouvais
mais
ça
moi,
un
je trouve
peu...
ça vachement sympa.
Ah, que
non, mais,
à la fois
non,
un
non
peu...
attends, ok, attends, excusez-moi, il y a débat, vendre un chariot, je comprends le bail, je comprends l'attachement, vendre un clou,
oui, mais et le clou,
excusez-moi, et c'est dans
mais
ta tête
de tonnerre de Zeus.
C'est ce que je me suis dit, mais
est-ce que t'as acheté ton clou, Julien?
Mais Guillaume, pense un peu démocratique. Est-ce que tu crois que tout le monde peut s'acheter un chariot à 1200 boules en sortant du parc? Un clou, tu l'achètes à ton gosse, ça coûte 2 euros.
Et ouais, les fans sont friqués maintenant. Julien le disait tout à l'heure. Les fans sont pétés de thunes maintenant.
Finalement, on revient sur mon argument, tu vois.
Ah, il avait raison.
Non, je trouve ça un peu, ouais, non, un peu bizarre, mais quand tu penses, pourquoi pas? Écoute, c'est marrant.
Tu peux vendre des trucs pas chers, mais quand même un peu plus, un putain de clou, quoi. Allez,
imagine ce qu'il a, carrément, c'est l'expression, quoi.
Ce qu'il a subi, ce pauvre petit clou, pendant des années, à subir les vibrations du train qui lui passait dessus. Enfin, voilà, il a bien mérité une retraite tranquille sur une jolie petite étagère d'un fan. Enfin, moi, non, je suis à fond, je suis team clou, moi, à fond.
Team clou.
Bon. Eh ben, dites-nous ce que vous aimeriez pouvoir acheter. Moi, j'avais déjà dit, je vous rachète toute la collecte Rock'n'Roller Coaster, mais je suis sûr qu'elle est déjà paumée dans un...
L'affiche de Vanessa Paradis qui était dans Rock'n'Roller Coaster.
Par exemple. Mais tu vois, je suis sûr qu'il y a des réhabs tout le temps où il se retrouve avec plein de merdouilles sur les bras. Et ben, tout ça, alors ça demande du boulot aussi, hein, de mettre en vente ces choses-là, une infrastructure et tout. Mais je suis sûr qu'il y a quand même un petit marché.
C'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils aiment l'argent en général, c'est pas l'attraction surtout utilisée. Par exemple, si t'avais pu acheter une pièce, par exemple le CD qui était, le CD géant qui était à la droite du Rock'n'Roller Coaster, est-ce que tu l'aurais acheté pour le mettre dans ton salon ou ton jardin, Louis?
Alors, non.
Le grand CD.
Parce que c'est pas le style de, disons que niveau colorimétrie, etc., ça va pas trop avec mon intérieur, mais je suis sûr que ça aurait trouvé preneur tout de même. Ouais, ce gros CD, écoute, je sais pas où il est maintenant. J'espère qu'il existe quand même, en vrai, hein, qu'ils l'ont pas détruit, qu'ils l'ont pas foutu à la déchetterie, quoi. donc, à voir. Mais, ouais, écoute, c'est comme, tu sais, ces petits, qu'est-ce que j'avais acheté? Tu sais, j'avais acheté un truc d'un film Hardman, là, un petit truc du film pirate. Bref, il y a toute une industrie derrière les accessoires, mais les trucs de film. Il y a des sites entiers où tu peux acheter le moindre truc de James Bond, une carte d'identité qu'un mec a montré dans James Bond dans un film, un truc ridicule, tu vois, qui voit une seconde à l'écran et ça se vend des centaines d'euros en fait, parce que les gens se disent bah c'est le truc qui a été dans tel film dans James Bond et c'est moi qui l'ai. Et bah j'imagine que tu peux avoir un peu le même feeling avec des trucs d'attraction. Tu dis j'ai un bout de cheveux du pirate qui se balance avec la corde ou je sais pas un doigt qui est tombé, n'importe quoi, ça peut être drôle quoi.
Un orteil du
c'est,
pirate.
Tu mets dans le formol, c'est parfait.
Bien.
On digresse pas mal, dis donc. Hein,
ouais, finalement, pas beaucoup d'état d'âme pour ces pauvres attractions qu'on démantèle comme ça entre nous.
On s'en fout.
Un débat donc très consensuel cette semaine.
Non, mais c'est ça en fait. C'est à un moment donné, on peut pas empêcher les parcs de continuer leur développement, d'avancer. Je pense que les parcs sont totalement conscients du caractère culte ou pas de leurs attractions, des choses qui vont plus ou moins chagriner à un moment donné le public. Et puis voilà, bah ils trouvent les formules adéquates, mais de temps en temps ça peut être douloureux en effet. Et à un moment donné, il y a des attractions qui parce que voilà, c'est dans cette attraction que t'as fait ton premier baiser ou j'en sais rien ou pire que ça, elle va disparaître.
Ou ton premier bébé,
ton premier bébé, voilà. Ah ouais. Et puis non mais c'est normal.
Mais c'est vrai que c'est là
partie de la vie des parcs.
C'est intéressant de faire la distinction quand même aussi entre le public et les fans quoi. Donc c'est vrai que tu disais voilà, il faut renouveler l'intérêt du public et c'est quand même deux audiences assez distinctes quoi, hein, le public qui vient dans les parcs et qui constitue la majorité des visiteurs sur une journée donnée et les fans qui vont connaître chaque truc par cœur et on le voit bien à chaque fois, on cite ça comme exemple, les gens qui à Disney évidemment connaissent pas le nom des attractions et qui demandent où est tel truc qui existe plus depuis 10 ans, elle fait bah mais c'est plus là. Enfin, tu vois, parfois c'est quand même compliqué hein, de faire suffisamment de promotion pour faire comprendre aux gens que tel truc. Alors là, Disney, ils y vont à fond sur leur nouveau campus, mais tu vois, pour que les gens vraiment comprennent quelle est l'offre à un moment donné dans un parc, finalement, ça met du temps, quoi.
Eh bien,
très bien.
Écoutez, moi j'ai envie de vous dire pour conclure toutes ces belles attractions. Elle reste ad vitam aeternam dans nos cœurs, voilà.
Oui, tout à fait.
C'est là qu'elle vive pour toujours. Bien, mais merci beaucoup Julien d'être venu discuter de ça avec
nous. C'était cool, merci à vous.
Un petit trip sur Nostalgia Lane, l'avenue de la nostalgie et des premiers baisers
et des premiers bébés.
Et des premiers bébés, voilà. Dans quelle attraction vous avez fait votre premier bébé? Tiens, on en a déjà parlé peut-être.
On en a parlé un petit peu puisqu'on ressort à chaque fois ce fameux film porno qui a été filmé dans à Walibi.
Et tu l'as regardé finalement?
Et je crois que j'ai toujours pas trouvé.
C'est l'Arlésienne, ce truc.
Oui.
On va faire un viewing soir, sur Twitch, ça va être une très bonne ambiance.
Ouais, c'est une bonne idée. Premier baiser, non, je crois pas tellement qu'il y ait eu de ça pour moi dans le parc d'attractions, mais vous, ça a été des endroits de dates un peu pour vous, justement, les parcs d'attractions, pour finir là-dessus?
Absolument pas.
Non.
Ouais. Nope.
Non, vraiment pas. Non.
Enfin, au bout d'un moment, tu vas avec ton ou ta partenaire, quoi. Mais je veux dire, c'est pas un truc de premier rendez-vous dans ces concerts, quoi.
Mais ça pourrait être le cas pour certains, comme on dit, on va au cinéma ou on va au bowling ou je sais pas où, tu peux te dire.
Ouais, mais c'est déjà un commitment de dire, premier rendez-vous, tiens, viens, on va passer une journée à 150 balles à DLP. Ou au Walt Disney Studio. Mauvais retour sur investissement. Y a pas de rivière enchantée dans les petits tunnels. Bon. Et eh bien voilà, on a encore un petit peu digressé.
On va arriver à conclure là, ou quoi?
Ouais, écoutez, on va conclure. Hein. Encore une fois, je dis un merci d'être
venu. Merci beaucoup.
C'était toujours un plaisir.
Ouais.
Julien, on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton handle sur Instagram?
Oui, c'est Julien Bertevas, Theme Park Design, tout simplement.
Aller lui mettre des petits cœurs sur ses photos.
Ouais.
Et Louis, on te retrouve également sur les internets, c'est ça?
Ah, on se donne nos propres trucs maintenant aussi. On me retrouve sur les internets, effectivement. @parkéologie sur Twitter, @parkéologie sur YouTube. Voilà. C'est comme archéologie avec un P devant.
C'est ça.
C'est sur ta carte de visite?
Ouais, c'est comme ça que je l'écris.
c'est très bien.
Et toi, Guillaume, alors, El Parcorama?
Et grosse activité sur le blog, hein, le parcorama.com, allez-y tous. Je suis sur Twitter @parcorama, Instagram @parcorama, et je suis en train d'essayer de peut-être faire un vlog sur l'ouverture de Avengers Campus. Ça sera sur YouTube.
Attention de dire ça.
Quand j'aurai eu le temps.
Est-ce que tu as décidé de la langue? Parce que je sais que tu avais fait un petit sondage pour
tout à fait.
Ce sera en néerlandais.
Français!
Bravo.
Et oui. Bien, chers amis, merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous écouter et de donner nous plein de pouces en l'air, de belles étoiles, de commentaires. Tiens, ça fait plaisir, les commentaires sur les applications de podcast. Je crois que c'est Apple Podcast qui fait ça. Et bien, vous savez quoi? On se retrouve très bientôt dans une autre file d'attente. Merci encore, Julien.
Merci à vous.
Merci Louis. Bye bye à tous. Ciao ciao.
Bisous.
Ciao.